Alors concluons, le consensus des exégètes modernes et rationalistes repose sur du vent. Ils se fondent les uns sur les autres, mais la loi du nombre et surtout le mépris des arguments factuels, par préjugés idéologiques, ne valent rien. Les évangiles n'ont pas été composés entre 70 et 100. Comme le prétend Onfray, c'est faux, scientifiquement faux. L'anglican John Robinson, le savant hébraïsant Claude Tresmontant et l'abbé Jean Carmignac, donc dans les années 70-80, ont réduit définitivement à néant ce faux consensus par des arguments historiques, philologiques, qui confirmaient les traditions, les témoignages externes de la tradition catholique. Et bien sûr, on l'a dit, ils ont mis en ébullition tous les progressistes qui voyaient leur thèse s'effondrer. Particulièrement, on l'a dit, les pères Grelot, Ignace de la Poterie, jésuites modernistes, qui sont négateurs de l'inhérence de l'écriture et de l'historicité des évangiles, et qui ont fait longtemps la loi, et bien malheureusement, à l'Institut biblique pontifical, et qui fondaient leur exégèse, avec quelques retouches évidemment, sur celle des années 20 et de Bultmann, le protestant, qui était leur idole. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, cette lettre est datée de 54-57, très précisément, écrit ceci. « Mais leurs esprits se sont aveuglés, car jusqu'à ce jour, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure sans être ôté, parce que c'est dans le Christ qu'il est levé. » Donc là, on a Saint Paul qui parle d'un livre appelé Ancien Testament, qui se contredistingue d'un Nouveau Testament, dont il dit quelques versets avant, qu'il vient non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc on a là une allusion qui concerne au moins un ou deux évangiles, avec quelques lettres apostoliques, qui forment déjà un Nouveau Testament, qui se contredistingue de l'Ancien Testament, des anciennes Écritures. Et dans la même lettre, saint Paul parle d'un frère dont toutes les églises font l'éloge pour sa prédication de l'Évangile. Là, on a une précision qui est donnée comme étant un signe distinctif, et qui désigne bien sûr Saint-Luc, hein, qui est le collaborateur de Saint-Paul et qui a composé un évangile. Car Saint-Luc n'est pas le seul à prêcher l'évangile, c'est-à-dire à partir en mission et à évangéliser. Mais ce n'est pas ça qui distingue ce frère-là connu de toutes les églises. Parce que lui, ce frère-là, a écrit un évangile. Donc Paul, ensuite, et les autres apôtres, hein, on le sait, ne séjournaient pas très longtemps, hein, 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, avec des exceptions, mais ils ne séjournaient pas très longtemps dans chaque communauté. Ils établissaient une hiérarchie, puis évangélisaient autre part. Et donc, ils ont dû désirer très tôt, non seulement laisser une hiérarchie, mais aussi laisser un écrit pour consolider l'ouvrage qu'ils avaient fait. Et donc, il est invraisemblable qu'on a laissé plus d'une vingtaine d'années passer sans prendre le temps de mettre par écrit les souvenirs apostoliques, et à commencer par ceux du chef de l'Église, de Saint-Pierre. Quand Luc écrit ceci, « Comme plusieurs ont entrepris de composer une relation des choses accomplies parmi nous, conformément à ce que nous ont transmis ceux qui ont été dès le commencement témoins oculaires et ministres de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, qui de longue date ai tout suivi avec soin, d'en écrire pour toi le récit suivi, noble Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc là encore, Saint Luc fait allusion aux évangiles de Matthieu et de Marc, hein, qui sont des apôtres, ou qui a connu l'apôtre Pierre pour Marc, ou qui est le traducteur. Auquel donc Saint-Luc va ajouter des témoignages obtenus de sources personnelles, en se fondant lui aussi sur un recueil de témoins oculaires qu'il fera traduire en grec. Car si Luc est le seul évangéliste à ne pas être juif mais grec, étrangement, ou plutôt logiquement, son évangile possède des passages qui sont encore plus hébraïsants que Marc et que Matthieu. Ce qui manifeste que le traducteur grec, qui était Luc, a voulu être très servile, très littéral dans sa traduction. Bien plus que Marc et Matthieu, qui eux, avaient suffisamment connaissance des deux langues pour agir autrement. Il est ensuite indéniable que les évangélistes se sont servis d'une source commune, en tout cas les trois synoptiques. Une source commune qui date des faits mêmes qui sont décrits. Une sorte d'évangile primitif, sous une double forme, un bref souvenir des faits, particulièrement des faits vus par les yeux de Pierre, et puis un recueil de discours, dont Matthieu et Luc se servent. Et il est fort probable que celui qui a tenu la plume en prenant des notes des événements comme jour après jour qu'il voyait accomplis par le Christ, eh bien, ce premier écrivain est saint Matthieu. Il était apôtre, donc il suivait partout Jésus-Christ. Il était lettré, scribe. Ses fonctions de percepteur, avant sa vocation, le prédestinaient à cet office. Et lui-même raconte qu'il a quitté, il a changé de plume, entre guillemets. Seul cet évangile primitif explique les parallèles entre les synoptiques. Cet évangile primitif, n'ayant pas été traduit en grec, eh bien, a fait naufrage avec toute la littérature primitive hébrao-chrétienne. Donc on peut résumer la réalité comme suit. Matthieu, le premier, écrit un évangile en hébreu, en Palestine, pour les Hébreux, pour les croyants qui venaient du judaïsme, comme il l'a composé en langue hébraïque, dira Origène. Et ceci avant l'annonce faite aux païens, incirconcis, donc très tôt, dans un contexte archaïque, purement sémitique, où rien ne trahit une tradition tardive. Donc on est en gros vers l'an 42, enfin on est moins d'une dizaine AV. Pourquoi l'an 42, avant 42? Parce que là c'est la persécution de Hérode Agrippa Ier, qui va avoir la fuite de tous les apôtres de Jérusalem et de la Palestine. Donc après le martyr de Saint Jacques, apôtre, et après que Pierre ait été libéré miraculeusement, qui lui devait aussi être condamné. Donc on est à 42, on est à moins de 10 ans après la mort de Jésus-Christ. Il y a l'évangile de Matthieu qui se répand dans le monde juif. Cet évangile fut ensuite traduit en grec, et assez tôt, entre 40 et 50. Pourquoi on pense cela? À cause des épîtres de Saint Paul aux Thessaloniciens, qui, on le voit, on peut le deviner, sont dépendantes de l'évangile de Matthieu, dans le grec. Et ces épîtres de Saint Paul datent de 50-51. Ensuite, Marc a écrit son évangile soit entre 42-44, lorsque Pierre va fonder Rome, soit du deuxième voyage de Pierre à Rome, entre 53 et 58. On a Papias qui parle bien de Marc comme étant le traducteur de Pierre, ce qui sous-entend que Pierre a rédigé un évangile en langue sémite lui aussi, et c'est celui que Marc ensuite va traduire en grec, en y rajoutant des renseignements approuvés par Pierre, et qui sont aussi des ajouts dus à la prédication de Pierre depuis ce temps-là. Ce que confirme saint Irénée. On a une lettre de Clément d'Alexandrie qui va indiquer le but de l'évangile de Marc, raconter les principaux actes du Seigneur sans les symboles, sans les discours, le minimum, vraiment pour instruire les catéchumènes. Donc c'est un but pratique. Donc voilà pourquoi c'est l'évangile le plus court. Et aussi, on voit bien l'origine de Pierre, hein. On a des témoignages, des détails très précis sur les reniements de Saint-Pierre, c'est uniquement cet évangile-là. Des détails humiliants pour le chef de l'Église, mais qui manifestent l'amour de la vérité, de l'apôtre, et puis sa confession envers on ne peut pas oublier la miséricorde de Dieu envers lui, qui avait renié le Seigneur. On a donc vraiment plein de détails qui manifestent des témoignages oculaires. Marc possède vraiment des détails impressionnants, étonnants. Par exemple, il est le seul à oser donner ces détails-là. Et Jésus leur disait « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Ce qui est choquant pour les juifs de l'époque, même encore maintenant. Et, ou autre détail, après avoir promené son regard sur eux avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étant ta mariée. Donc, on voit bien que c'est des gens qui ont été impressionnés par la scène et qui l'ont noté très vite, hein, d'où cet évangile primitif. Autre détail, il dit à ses disciples de lui tenir une barque toute prête à cause de la foule pour qu'on ne le pressât pas, etc. Les surnoms aussi qu'on donne aux évangélistes, qui sont intéressants, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il imposa, donc Jésus donna un surnom à ces deux fils de tonnerre. Les siens, autre détail, les siens l'ayant appris, partirent se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Aussi, les gens ont dit de Jésus qu'il était fou. Ça, c'est un détail que saint Marc n'a pas peur de noter, de rapporter, saint Pierre. Et on voit bien, ce sont des détails qui ont été pris quasiment le jour même, au moment des faits, rapportés ensuite ou le soir. Ensuite, l'évangile de saint Luc. Donc, pour l'évangile de saint Luc, le récit des actes des apôtres s'arrête au moment où Paul attend à Rome l'issue de son procès. Donc, on est en 63 après Jésus-Christ. Et pourquoi ça s'arrête là? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne voulait pas attendre l'issue d'un procès dont on ne savait pas quand il allait s'achever. Donc il ne voulait pas remettre à plus tard la diffusion des actes des apôtres. Voilà pourquoi il n'y a aucune mention de la libération de Paul, qui s'est passée faire quelques mois après, ni la seconde captivité de Paul en 67. Donc il est vraisemblable que ce livre fut écrit eh bien, peu de temps après cette époque et avant la mort de Pierre et Paul en 64. Or, le troisième évangile est antérieur aux actes des apôtres, qui datent de 63. Donc l'évangile date au plus tard de 61-63. Et l'évangéliste le déclare lui-même. J'ai fait mon premier livre, Théophile, au sujet de tout ce que Jésus a fait et enseigné. Et donc cet évangile date au plus tard de 61-63, mais plutôt de 58-60. Et quant à l'évangile de Jean, ben c'est le dernier évangile, le quatrième, lui aussi a un grec arabisant, lui aussi est témoin oculaire, il a une parfaite connaissance des fêtes juives, des mœurs juives d'avant 70. On pense plutôt vers 65 pour l'évangile. De nombreux arguments militent bien pour un évangile, bien sûr, d'abord avant la destruction de Jérusalem, vu l'importance théologique, historique d'un tel événement, c'est inconcevable que Saint Jean n'en parle pas s'il l'avait écrit après. Il aurait dû faire des remarques. Saint Jean parle dans son évangile d'un miracle qui a été opéré par le Christ à Jérusalem dans une piscine. Qui s'appelle en hébreu Bethzata, et qui avait, dit Saint Jean, cinq portiques. Le nom de la piscine, le nombre des portiques, donc le nom de la piscine c'est l'envoyé, donc le Messie, le nombre cinq, nombre de chiffres humains, le mode opératoire complètement symbolique, donc tout est symbolique, le nom, les portes, le mode opératoire. Donc on a longtemps dit, voilà une preuve que cet événement est inventé parce que tout est symbolique et donc il n'y a aucun fondement. On a retrouvé quantité de piscines à Jérusalem et on n'a jamais retrouvé une piscine à cinq portiques. Quatre, mais jamais cinq. Bien. Bah, manque de chance, dans les années 50-60, on a retrouvé la piscine de cinq portiques. Donc, preuve que ce récit eh bien, était venait bien d'un contemporain qui a connu Jérusalem avant la destruction du temple. Donc, l'étude littéraire de nos évangiles nous révèle eh bien qu'en chacun des évangiles, une unité de langue, de style, qui font de nos évangélistes eh bien, plus que des rédacteurs, mais vraiment des auteurs, même s'ils sont mus par l'Esprit Saint, guidés. Ils ne pouvaient pas tout dire, ils n'ont pas voulu d'ailleurs tout dire, il fallait faire choisir et choisir ce qui était plus important selon leur point de vue, car il y avait différents points de vue possibles. Les quatre évangélistes ont chacun une finalité spécifique, subjective, qui diffère les uns des autres. Ils livrent bien le même évangile, le même fait, le Christ, parmi nous, mais sous à quatre angles différents parfois. Matthieu va insister, met en relief Jésus comme accomplissant les Écritures. Il cite 70 fois l'Ancien Testament. Pour le montrer. Donc c'est le seul évangile aussi qui précise dans la liste des apôtres que Matthieu était un publicain, donc il travaillait pour les Romains, ce qui était un pécheur public. Donc c'est humiliant pour Matthieu, mais Matthieu le dit. C'est péjoratif, mais de toute façon c'est passé, et puis c'est la vérité. Mais c'est Matthieu qui le dit. Les autres apôtres cachent cela de Matthieu. Marc, lui, insiste et met en relief le rôle principal de Pierre, chef de l'Église. Il le cite seul alors que les autres apôtres, les autres évangélistes, le cite Pierre et les apôtres à un moment dans la scène. Mais Saint Marc simplifie et se concentre sur Pierre. Et puis on l'a vu, il insiste, Saint Pierre insiste sur ses propres fautes, et là encore par humilité. Luc, qui a un grec beaucoup plus pur, lorsqu'il écrit son introduction, lorsqu'il ne traduit pas les documents de l'évangile primitif, va insister et met en relief eh bien, la mission du Christ, mais par rapport aux gentils, par rapport à la prédication de Saint Paul. Donc il manifeste la fin de la loi mosaïque, le règne universel du Messie par rapport aux gentils, et qui est une œuvre de miséricorde envers les pécheurs. Voilà ce qui est l'angle de vue de Saint Luc. Et puis Saint Jean va compléter les trois synoptiques en laissant bien tous les faits qui ont déjà été racontés, ça ne sert à rien de dire une quatrième fois. Surtout, il avait insisté face au courant gnostique qui commence à prendre forme, qui voit dans les évangiles bien un système intellectuel, comme le fait Onfray, qui détruit la réalité de Jésus, et bien il va commencer son évangile par l'incarnation du Verbe de Dieu. Et puis il va ajouter des actions qui ont été théologiquement très importantes, comme le mystère du premier miracle, Cana, ou la passation, je dirais, de la maternité divine spirituelle à la croix, etc. Et puis il insiste sur la personne intime du Sauveur, plutôt que ses faits et ses gestes. L'apôtre que Jésus aimait, comme dit l'Évangile, va livrer le cœur de l'Évangile. Ainsi. D'où l'expression d'Évangile spirituel de Clément d'Alexandrie. C'est un peu moins factuel, c'est un peu plus spirituel dans ce sens-là. C'est pourquoi Saint Jean insiste beaucoup sur les... Il y a de longs discours du Christ qui sont rapportés à la Samaritaine, aux pharisiens Nicodème, et puis surtout les trois chapitres de Après la scène aux apôtres, où là, il livre quantité de mystères. Avec, il développe aussi, bien sûr, commence à développer un peu les conséquences théologiques de l'action du Messie contre eh bien, les premières déviations hérétiques de la gnose. Voilà. Quatre apôtres, disciples du Christ, fondés sur les témoignages oculaires du Christ. Voilà, l'Évangile est authentique, fiable, intègre. Puissions-nous en tirer les conclusions et les conséquences nécessaires pour notre vie. Merci à vous, à bientôt.